Eh oui, c'est Monet. Alors, pourquoi Monet ? Eh bien, je suis Didier d'Attaquoise. Et pourquoi Attaque ? Alors, Attaque, c'est, on va vous parler de fric, d'évasion fiscale, de dette, tout ça de façon conviviale et abordable pour tous. Écoutez, vous serez surpris. Cette émission aura lieu tous les mois à raison de 30 minutes et sera animée par des adhérents d'Attaque. Tout de suite, je donne la parole à Thierry Patinet, porte-parole d'Attaquoise. À toi, Thierry.
Attaque, comme nous sommes déjà venus plusieurs fois, nous avons été invités par RVM. Donc, on s'était déjà présenté, mais comme c'est une nouvelle, je le redis très brièvement. Donc, c'est une association loi 1901 qui veut dire, du point de vue de l'acronyme, c'est-à-dire les initiales employées, l'association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Donc vous avez compris par rapport à l'intervention de Didier qu'on va parler essentiellement des questions de finances, de gros sous, de pépettes et de tout le reste. C'est une association d'éducation populaire, c'est pour ça qu'on parle d'action citoyenne. On cherche à ce que les gens se réapproprient les choses publiques et politiques au vrai sens du terme, de façon à ne pas laisser des marchands de soupe ou des marchands de rêves s'occuper de l'avenir du pays, de la planète et du climat. Et donc, je redis encore une fois, comme l'a dit Didier, je remercie encore une fois la station et l'association RVM, puisque c'est à la fois une radio et une association, de nous recevoir.
Merci Thierry. Ah, bien, alors, pourquoi avons-nous eu ce projet d'émission de radio ? Eh bien, bien sûr, c'est pour informer le public que vous êtes nombreux à écouter RVM. Ce sera donc un nouveau canal pour nous de communication et de sensibilisation aux problèmes politiques, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de la vie de la cité, qu'on va s'occuper de choix de société et de choix environnementaux, mais aussi on va s'occuper bien sûr d'économie. Donc tout ça à travers des témoignages, à travers des dialogues, des échanges, des documents. Et nous aurons l'occasion de parler notamment de tout ce qui est, par exemple, je peux vous donner quelques thèmes qui sont déjà prévus dans notre programme, l'évasion fiscale, la dette, le budget, le lobbyisme des banques, la précarité, ça rapporte, faire sauter les banques, la monnaie, articulation, transition écologique et croissance, prélèvement obligatoire, retraite, salaire. Vous voyez que les domaines sont assez vastes. Mais nous essaierons de démystifier un peu, de déconstruire le discours mainstream qui nous paraît important. Alors, pour aujourd'hui, quelle place pour l'écologie dans les luttes sociales ? Comment imaginer une politique écologique qui ne soit pas punitive pour les classes populaires ? Riches et pauvres sont-ils égaux face aux défis du changement climatique ? Au commencement de la protestation des Gilets jaunes se trouvait notamment la remise en cause des taxes sur le carburant. Pour autant, opposer écologie et mouvement de contestation populaire apparaît trop simpliste. En atteste le slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat ». Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux slogan « Fin du monde, fin du mois, même combat » avec le porte-parole d'Attaquoise Thierry Patinet. Et pour cela, je vais rappeler deux mots qui sont « écologie » et « économie ». Donc écologie, c'est la science dont l'objet est l'étude des interactions des êtres vivants avec leur environnement et entre eux. Et l'économie, qui vient du grec okos, hein, comme écologie d'ailleurs, qui désigne l'art de gérer sa maison. On parlait aussi d'économiser. Donc c'est de bien gérer et de réduire les dépenses et d'administrer un bien ou une entreprise. On peut donc parler d'économie écologique. Alors on peut en discuter avec Thierry pour voir ce qu'il en pense.
Alors, donc vous avez compris, comme on l'a présenté au tout début, qu'on va s'intéresser aux questions de finances, de monnaie, aux questions fiscales, aux questions budgétaires, car on a une connaissance et une conscience claire que c'est un nœud dans les crises qu'on est en train de vivre. Nœud à la fois parce que lorsqu'il y a une accumulation de cet argent qui va dans les paradis fiscaux, chez les ultra-riches, dans toute cette sphère financière, ça ne provoque que de la spéculation et ça n'aide en rien au développement de l'économie, donc on va reprendre l'économie au sens général, au développement de la société avec tous les besoins, que ce soit les besoins en termes de biens matériels, que ce soit l'école, la police, la justice, etc. Donc, il y a deux choses en même temps, c'est qu'à la fois, il n'y a jamais eu autant d'argent disponible et que cet argent n'est pas utilisé à bon escient. Non seulement il n'est pas utilisé à bon escient, mais comme le rappelle un livre dont le titre est très évocateur, publié en 2007 par Hervé Kempf, directeur de la revue Reporter, le titre est « Comment les riches détruisent la planète ». C'est-à-dire que l'argent mal utilisé, c'est pas uniquement qu'on serait jaloux, il y en a qui en auraient plus, mais ça contribue à poser des problèmes écologiques et climatiques. Et donc, c'est pour cela qu'on souhaitait aborder, lors de cette première émission, l'articulation des questions financières, économiques et des questions climatiques et environnementales.
Merci Thierry. Alors justement, pour poser les questions de façon un peu plus concrète, pour financer la transition écologique, le gouvernement actuel mise sur la croissance. Il n'y aurait pas d'emploi sans croissance et pas de croissance sans innovation. Quelle est la position d'attaque par rapport à cette proposition du gouvernement et à cette croissance ?
Alors, cette idée qu'il ne peut y avoir développement de la société, accumulation des biens, création d'emplois que par une croissance soutenue, effrénée et continue, c'est un dogme contre lequel on lutte au niveau de nos idées. Et nous pensons, avec d'autres économistes, montrer que c'est un dogme qui est non seulement pervers, mais en plus complètement erroné. Alors plusieurs choses. La première, c'est que d'un point de vue environnemental et climatique, il va falloir passer, alors c'est des ordres de grandeur, retenez simplement, qu'actuellement un Français en moyenne produit 12 tonnes équivalent carbone, CO2, par an, par rapport à son mode de vie, ce que l'on consomme, nos déplacements, ce qu'on achète, etc., etc. Et que pour rester dans la fourchette optimiste de moins de 2 degrés de réchauffement climatique, il va falloir qu'on n'émette que 2 tonnes. Autrement dit, retenez, en 30 ans, on passe de 12 tonnes à 2 tonnes. Ça veut dire qu'il va falloir produire et consommer moins. Alors nous disons différemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des secteurs où il va falloir se serrer la ceinture. Il va falloir modifier complètement nos comportements. Mais ça veut dire aussi que dans d'autres secteurs, peut y avoir de la croissance. Et donc, c'est très complexe de répondre à cette question, en une seule phrase. Donc, retenez qu'il va falloir diminuer. Et donc, par rapport à ça, la position d'attaque, c'est qu'on soit sur la sobriété et en même temps de l'égalité. C'est pour ça que j'ai parlé tout de suite, au début d'Hervé Kempf, comment les riches détruisent la planète. La question des inégalités est un des éléments qui contribue à la destruction de la vie sur Terre. Donc, en résumé, par rapport à la question de Didier, vouloir sortir de cette crise qu'on vit actuellement par une augmentation de la croissance et du PIB, le PIB, est un non-sens. Il va falloir organiser et penser nos systèmes de production et de consommation et d'échange de manière tout à fait différente. Ça ne pourra se faire que de manière concertée, démocratique et beaucoup plus égalitaire.
Ok. Alors, si c'est pas facile de répondre à cette question-là de façon générale, je vais peut-être la poser de façon un peu plus précise. Certains secteurs de l'industrie, notamment l'automobile et le secteur aérien, risque de perdre beaucoup d'emplois par rapport à la crise pandémique, mais aussi à la transition écologique. Alors, comment concevez-vous et voyez-vous l'avenir de ces salariés de ces secteurs ?
Déjà, en préalable, je répondrai que ATTAC, par son positionnement de mouvement d'éducation populaire et d'association loi 1901, qui cherche à transformer la société, travaille avec toutes les forces sociales pour construire ce changement et cette nouvelle société dont on appelle de nos voeux. Certains ont parlé, après la pandémie, enfin on y est toujours, du monde d'après. Donc ça veut dire qu'on travaille aussi bien avec des associations écologiques qui veulent écologiques et écologistes qui veulent diminuer la production, arrêter l'automobile, etc. Et on travaille avec les organisations syndicales qui défendent les salariés justement par rapport aux conséquences non seulement de la crise, pouvoir d'achat, réduction des emplois, mais qui va être accentué par rapport à ce que tu viens de dire, Didier, c'est-à-dire la nécessité de diminuer vraisemblablement le secteur automobile et le secteur aérien. Donc par rapport à ça, on fait référence à un document qui a été construit par un collectif international qui s'appelle « 1 million d'emplois pour le climat ». On a ouvert plein de pistes, alors qu'ils demandent à être actualisés, il n'y a pas de problème, mais plein de pistes qui montrent que dans tous les secteurs, il y a des mines de création d'emplois pour répondre aux transformations de ceux qui existent. Alors, je vais prendre un exemple tout simple, sur la voiture. Sur la voiture, il y a trois scénarios. On supprime les voitures, on va tous à pied en vélo, c'est pas raisonnable. Il faut développer les voies pédestres et les voies cyclables, ça y a pas de problème. Mais on développe les transports en commun. C'est une piste qu'il faut accentuer et ça va contre, tout à fait contre la dernière décision du gouvernement. Enfin, c'était sous Édouard Philippe, mais le plan rail qui a supprimé je sais pas combien de milliers de voies ferrées, etc. Il faut réinvestir dans le ferroutage, dans le transport, y compris des marchandises. Il y a une bataille actuellement qui est menée par rapport à ce fameux train entre Perpignan et Rungis concernant les primeurs qui a été supprimé et qui pour l'instant n'est toujours pas rouvert. Bon voilà, donc développer les services publics. Il y a une deuxième possibilité qui est de réorganiser la vie, l'aménagement du territoire, le lieu de travail, etc., pour organiser du covoiturage, bon, bref. Parce qu'on ne pourra pas se passer du jour au lendemain des voitures, ça nous semble tout à fait évident. Autrement dit, les scénarios qu'on aborde sont des scénarios crédibles. La troisième, c'est qu'il y a des recherches, innovations qui doivent être conduites, et parmi les scénarios, alors, les avis sur la voiture à hydrogène, sur la voiture électrique, c'est une question en tant que telle. Donc si tu ne me la poses pas, je ne vais pas y répondre parce que ça nous emmènerait trop loin sur des détails techniques. Voilà. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut diminuer l'empreinte carbone, quand je disais les équivalents CO2 rejetés dans l'atmosphère, les gaz à effet de serre, une des solutions, c'est d'inventer, et c'est faisable techniquement, technologiquement, des voitures dont la consommation tournerait autour de 1 litre à 2 litres, par rapport à la moyenne actuelle qui est autour de 8 litres. Ça permettrait aux gens d'avoir toujours ce moyen de locomotion, parce qu'il faut être réaliste, la voiture est une invention géniale. C'est génial. Enfin, je veux dire, toutes les inventions qui ont été faites, ça a amélioré plein de choses.
Un vecteur de liberté pour certaines personnes.
Alors après, ça c'est des questions philosophiques. Il y en a, c'est non seulement la liberté, c'est un secteur de puissance. Il y en a, ils expriment leur sexualité dedans. Bon, ça c'est autre chose. Hein. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces consignes.
Une petite voiture.
Et donc, voilà. Et le fait qu'on reconstruise avec des chaînes de production des voitures avec des moteurs différents, ça veut dire qu'il y a toujours besoin d'une industrie, il y a toujours besoin d'ouvriers, il faudra mieux les payer. Voilà. Autrement dit, on résout... Il n'y a pas d'opposition systématique entre les questions environnementales, climatiques, écologiques et les questions d'emploi. Tout dépend de comment le capital est utilisé pour à la fois faire des recherches et des nouvelles productions qui rendent satisfaction à la population tout en s'occupant des questions écologiques et environnementales. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, vous tapez 1 million d'emplois pour le climat sur Internet, vous l'avez, ça vous donne des pistes.
Merci Thierry. Alors, si j'ai bien compris pour résumer, il faut s'attendre quand même à une certaine sobriété. Alors j'espère que ce n'est pas la sobriété pour tous, parce que moi, la deuxième question que j'ai, à laquelle tu devrais répondre, c'est qu'est-ce que tu réponds à un ménage qui est déjà sobre, qui souhaite éventuellement être plus vertueux d'un point de vue environnemental, mais qui a déjà l'impression de se priver déjà de pas mal de choses.
Pour être rapide, je vais répondre en prenant des cas extrêmes. Un ménage, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, et je ne me moque pas, mais un ménage de SDF n'a pas besoin d'être plus sobre. La vraie question, c'est la question de l'égalité et de l'accès aux droits et aux services publics pour tous. Donc les vraies questions, c'est justement ces inégalités et la question des moyennes. Donc quelle est la moyenne en termes de revenus, de ressources nécessaire pour vivre décemment, actuellement, c'est-à-dire sortir du mode de tout consommation, de changer son portable, son smartphone, sa voiture tous les 1 an, 2 ans. Donc derrière ça, il y a à la fois une nouvelle économie à mettre en place, et ça commence à se mettre en place en plus, il ne faut pas être pessimiste. Hein. Les recycleries, les circuits courts, l'économie circulaire, le recyclage, Voilà. Et la deuxième chose, ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement, il va falloir qu'on s'habitue à se rendre compte que le bonheur, c'est pas forcément consommer la dernière chose le plus rapidement possible. Je veux absolument avoir, j'en sais rien moi, un matériel de bricolage. On en a certainement besoin. Mais donc, je fais appel à des sociétés contre lesquelles on lutte, Amazon, de façon à l'avoir le lendemain. C'est d'une absurdité totale. Et les gens ne mesurent pas la gravité et l'urgence de changer les comportements par rapport à la crise climatique et à la crise environnementale. Et quand, par rapport à ta question initiale, changer le comportement, ce n'est pas... tout le monde doit réfléchir à la manière dont il le vit et il consomme, mais la priorité, c'est, je reviens à Hervé Kempf, comment les riches détruisent la planète. Et ce n'est pas un parti pris. S'il y a des riches qui ont bien travaillé et qui gagnent plus que d'autres, aucun problème. La question, c'est une question de mesure. L'écart des salaires. Quand,
la lubricité, la démesure, il faut combattre ça.
Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête. On avait fait une roue de la fortune en faisant jouer les gens. C'était, et j'ai rien contre ce monsieur. Ça se trouve, il est très gentil. Ça se trouve, c'est un bon père de famille, un bon grand-père. Je parle de Bernard Arnault. Je ne sais plus à combien de dizaines de milliers d'euros il gagnait par seconde. Seconde. Je ne sais pas si vous imaginez. Je veux dire, ça n'a plus de sens. Et alors, quand je dis « il gagne », c'est pour faire un raccourci. Ça ne veut pas dire qu'il a de l'argent en poche, il a cette somme. C'est par rapport à ses actions, son patrimoine, etc. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, les plus riches n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas l'utiliser. La vraie question, mais peut-être tu vas me la poser après, donc si tu me la poses, je m'arrête là, c'est comment se fait-il que le système fiscal... Et c'est là où on arrive au cœur de l'attaque, fait que les gouvernements et les lois permettent qu'il y ait de telles inégalités salariales, de tels comportements, l'organisation de l'évasion fiscale, mais ça on le verra avec les banques quand il y aura une émission dessus, etc. etc. Comment se fait-il que ce soit, non pas légal, mais autorisé et que ça continue à fonctionner ?
Bien. Est-ce que l'attaque propose notamment de faire un salaire maximum ou un revenu maximum ou un patrimoine maximum ?
Alors on a des pistes, nous ne sommes pas un parti politique et je ne dénigre pas les partis politiques, c'est des institutions qui, dès l'instant où elles travaillent sérieusement avec honnêteté, sont des institutions utiles. Mais ceci étant, nous ne sommes pas un parti politique, donc on n'est pas avec un programme où on va chercher à ce que des électeurs votent pour nous, pour qu'on soit élus, pour le mettre en œuvre. Notre souci, nous, c'est de faire que les gens réfléchissent et agissent en conséquence avec des outils, c'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. Donc par rapport à ça, la question des revenus et des salaires fait qu'on souhaiterait qu'il y ait effectivement un écart de salaire qui soit beaucoup plus raisonnable. Alors ça va de 1 à 4 au minimum, ça peut aller de 1 à 30 quand on s'appuie sur la recommandation de la Fédération syndicale européenne. 1 à 30, je ne sais pas si vous imaginez déjà ce que ça représente. Avec un SMIG à 1500 euros, multiplié par 30, ça fait oui, 15 000, exactement. Ça fait 30 000.
Ça permet de voir l'avenir correctement.
On voit l'avenir correctement. Donc voilà, il y a un écart qui devrait, et ça rentrerait, qui devrait exister, ça rentrerait dans la question de la sobriété.
Alors, dernière question. Beaucoup de gens disent que ça ne sert à rien d'agir localement, n'importe comment tout se passe au niveau mondial, au niveau de la planète, et que ce n'est pas parce que je vais faire quelques gestes de vie quotidienne que ça va transformer globalement le climat et l'environnement. Alors, que répond Attac à ça ?
Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que si on prend les ordres de grandeur, il faut raisonner d'un point de vue un peu scientifique. Si tout le monde était super écolo, c'est-à-dire plus de déchets de plastique, plus de transport, plus de machin, plus de bidule, plus de truc, on réduirait au mieux entre 20 et 25% les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire ces gestes dont tu parles, mais que ce ne sera pas suffisant. Les effets de système, ça se juge sur les politiques économiques mises en place, les politiques financières, etc., etc. Donc il faut changer le système ultralibéral dans lequel on fonctionne, qu'on pourrait résumer par le système capitaliste. Donc ça veut dire changer les normes, changer les lois, plus de traités de libre-échange, plus construction d'avions qui vont polluer, plus dernière décision au moment de la Convention citoyenne pour le climat, au moment où il y a une sensibilisation sur ces questions-là, le gouvernement actuel vient d'autoriser que les grandes plateformes logistiques et du numérique sortent de la nécessité de rentrer dans un contrôle des émissions de gaz à effet de serre pour qu'elles puissent continuer leur productivité. Je ne l'ai pas très bien exprimé, mais l'idée, elle est là. Et donc, voilà, ce sont des questions qu'il faut se poser. Ce sont des questions politiques. Maintenant, il faut que les gens agissent localement. Parce qu'en agissant localement, un, on se rend mieux compte des problèmes auxquels on est confronté. Deux, on le fait ensemble de façon à trouver des solutions où peut y avoir aussi un nouveau type de bonheur, de sociabilité. Et de toute façon, tous ceux qui s'y seront mis seront mieux préparés aux adaptations nécessaires auxquelles on va faire face par rapport aux problèmes climatiques.
Merci Thierry. Donc si j'ai bien compris, la dernière réponse c'était agir local mais ensemble. Pas tout seul en tout cas.
Et penser global.
Et penser global. Merci Thierry. Nous allons faire une petite pause musicale maintenant avant de passer à notre agenda et nos actualités. Donc nous poursuivons notre émission Attaque sur RVM. Nous avons entendu les réponses de M. Patinet, porte-parole d'Attaquoise. Maintenant, nous allons aborder les problèmes d'agenda, d'actualité, et nous parler aussi de l'émission, la prochaine émission qui aura lieu donc le mois prochain. Donc, dans l'agenda, qu'est-ce que nous avons à nous mettre sous la dent ?
Alors, il y a plein de fêtes organisées par les municipalités actuellement, des fêtes des associations, puisqu'il y a une sorte de rattrapage par rapport aux problèmes des confinements successifs. Donc, je les aborde pas, il y en a dans beaucoup de communes, au sein desquelles parfois Attac est présent avec un stand, ou parfois avec d'autres associations. Je développe pas. Et dernière chose, si on a encore le temps, c'est par rapport à l'actualité, ça fait deux fois dont on a parlé, c'est la question de la pandémie et du pass sanitaire. Donc là, c'est une question éminemment polémique et qui traverse toutes les organisations, toutes les familles, voire même si on est honnête, les uns et les autres, qui traversent chacun soi-même. Est-ce qu'on est bien sûr des informations que l'on a ? Donc je ne développe pas la position d'Attaque dessus. La seule chose que je dirais, c'est les deux phrases que l'on a écrites et que je vais vous lire. Nous avons besoin d'échanger pour sortir de nos cylindres de croyances et de connaissances, chacun s'appuyant sur son réseau d'informations, sur son expert, en étant sûr de détenir la vérité. Étant dans cette posture, les gens ne s'écoutent plus, il n'y a plus d'échange possible. C'est pour ça que Attac fait une proposition très simple, c'est comme la Convention citoyenne pour le climat. On demande à ce qu'il y ait l'organisation d'un vrai débat argumenté où il y a de la délibération contradictoire, de façon à ce que les éléments qui reçoivent de l'ordre des fake news ou du complotisme soient mis de côté et soient reconnus comme tels, et que les éléments scientifiques sur lesquels on peut s'appuyer malgré toutes les incertitudes, permettent aux gens d'avoir au minimum un débat serein sur ces questions. Ceci étant, pour faire le point sur cette situation, y compris par rapport au droit du travail et au scandale que ça peut représenter, en particulier pour les soignants, tous les travailleurs qui sont dans le sanitaire, Attaque est fermement contre le pass sanitaire. Voilà.
Alors, je crois qu'on va conclure pour cette première émission. Et nous vous donnons rendez-vous pour une seconde émission, dont le thème sera...
Alors, un de ceux que Didier vous a lu tout à l'heure, ça peut être vraisemblablement sur les questions des banques, parce que les banques sont vraiment des institutions utiles. Ah, Attac dit que les banques, c'est utile. Eh oui, je maintiens, elles sont utiles, mais telles qu'elles fonctionnent, c'est un scandale absolu, et c'est le nœud de l'évasion fiscale, c'est le nœud de tous les dysfonctionnements. Oui. Donc un petit point sur les banques.
Sur les banques. Et peut-être sur les retraites, parce qu'à ce moment-là, il y aura peut-être un peu d'actualité sur les retraites. Mais ça, on verra ça à ce moment-là.
Et puis, ce qu'on avait prévu aussi, on est vraiment intéressé parce qu'on n'est pas là pour vendre des salades. Et c'est bien, les vendeurs de salades, c'est des gens très utiles. Hein. Mais, donc vous avez compris l'expression, c'est si on a un retour sur cette émission, soit en termes de questions, de demandes d'approfondissement, on est preneur.
De thèmes.
Et de thèmes, oui, même. Et donc, à la prochaine émission, il y aura une toute petite séquence sur retour sur cette émission. Et voilà, ça vous permettra de suivre, comme nous. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut faire ce retour? Eh bien, vous pouvez le faire soit sur le site de RVM, voilà, ou vous pouvez le faire sur le site de Attaquoise. Je vous donne les coordonnées. Mail, c'est oise. @attaque.org. Attaque, A-T-A-C. Voilà.
Bien, merci Thierry. Et donc je vous rappelle que vous pouvez écouter et réécouter cette émission sur le site de RVM dans l'onglet Réécouter. Merci. Au revoir.